RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du samedi. Dans quelques secondes, la Guinée, qui a bien du mal à se regarder dans le miroir, ne voudrait voir que son présent sans les taches du passé. Conakry plaide que pour avancer, il ne faut pas se retourner. Mais les victimes arbitraires de Sékou Touré, dans un cri devenu presque inaudible avec le temps, continuent d'interpeller. Qu'avais-je fait? Pourquoi moi? Un cri et personne ne répond. Objectif décarboné. L'Europe affiche ses intentions, mais comment les tenir quand une industrie, par exemple la sidérurgie, pollue tellement que la réformer coûte si cher et que personne n'a réellement envie de payer? Direction la Slovaquie, Košice, en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, nous appelons Conakry. Bonjour Mathias Reynal.
Bonjour Patrick.
Ce 3 avril marquait pour la Guinée une date particulière.
Oui, c'est l'ouverture des camps de prisonniers de Sékou Touré. C'était il y a 40 ans exactement. Les prisonniers de Sékou Touré recouvraient leur liberté.
Et là, c'est une réalité pour le moins surprenante ou choquante que tout le monde a découvert.
Alors les gens connaissaient le système répressif de Sékou Touré, mais ils n'étaient pas forcément au courant du détail de ce qui se passait dans ces camps, et ils vont le découvrir, effaré, découvrir la réalité, la vérité de ces camps.
Des témoignages que nous allons entendre dans un instant, des survivants du camp Boireau aujourd'hui. Il en reste beaucoup, Mathias?
Il en reste une poignée seulement, on parle d'une petite dizaine.
Mathias, on se retrouve dans 20 minutes après avoir écouté votre grand reportage. Son titre, Camp Boireau dans l'enfer du goulag tropical.
Heures du matin dans une voiture en banlieue de Conakry.
J'ai le triste privilège d'être à la fois victime et enfant de victime parce que c'est ma mère qui a été incarcérée. J'ai partagé avec elle son incarcération jusqu'à l'âge de 6 ans.
Daniel Philippe de Sainte-Marie est né en 1971. Sa mère est alors en détention au camp Boireau. Ce centre d'internement est l'un des plus connus de l'archipel du goulag guinéen qui s'étend sous Sékou Touré, de la capitale à Kankan, dans l'est du pays.
La Guinée entame un nouveau chapitre de son histoire.
Le 3 avril 1984, un groupe de militaires vient de s'emparer du pouvoir. L'information est reprise à la télévision française.
Le premier geste des nouveaux dirigeants donne le ton, la libération des prisonniers politiques détenus dans le camp de Boireau. Ce lieu d'internement était, selon l'opposition, un véritable camp de concentration où sont morts des dizaines de détenus politiques. La torture y était autorisée, les conditions de vie horribles, plusieurs prisonniers y sont morts de faim. Le gouvernement se propose d'édifier à Boireau un monument à la mémoire des martyrs de l'injustice.
Les journalistes filment les prisonniers sidérés, hagards, le souffle coupé. Ils racontent pour la première fois ce qui leur est arrivé.
En un mot, je suis dépassé de joie. Mon nom, c'est Mamadi Bamba, gendarme, maréchal de logis, qui était au début de ce stage. Oui. On m'a arrêté pour avoir fait complot contre ce régime. Je suis au courant de rien, on n'a même pas interrogé.
Depuis 4 ans, je suis en prison. Oui. Depuis le 16 juin 1980, j'ai été arrêté alors que j'étais venu pour dire bonjour à mes parents et pour me retremper dans mon pays d'origine, la République de Guinée.
Vous êtes venu d'où?
Je suis venu de Dakar, je suis fonctionnaire international et je travaille pour les Nations Unies.
J'ai fait 3 ans, j'ai été arrêté le 23 mars 1981.
Oui.
Pour la simple raison,
oui,
qu'un parent est passé la nuit chez moi.
40 ans après, le camp Boireau est resté une base militaire. Nous passons devant en voiture, côté passager derrière la vitre fumée, Daniel observe.
Je suis juste déçu parce que on a changé le nom, ils ont détruit beaucoup de choses. J'ai ce sentiment que l'État guinéen veut étouffer, en tout cas, s'en fout de l'histoire.
Les anciens bâtiments, les cellules notamment, ont été rasés il y a une quinzaine d'années au cours de la transition militaire dirigée par Moussa Dadis Camara puis Sékouba Konaté. Mais dans le sol subsistent des vestiges, selon Daniel.
Il y a un charnier là-bas encore. Moi, je n'ose même pas rentrer là-bas parce que je vais. Qui conserve le charnier là, qui qui permettent aux gens d'aller se recueillir. C'est tout ce que nous, nous voulons. Nous aspirons à une seule chose, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'à présent où leur papa, où leur maman est enterré. C'est douloureux. Ça fait mal. Si on dit on a la haine, c'est faux. On n'a pas de haine. On a de la colère et de l'amertume. Ma douleur, c'est surtout par rapport à ma mère. On a gâché sa vie. On a brisé sa vie.
Néné Diarioukassé, c'est le nom de la mère de Daniel. Une femme charismatique et élégante qui a accepté l'interview. Mais ce sera sa dernière intervention dans les médias, prévient-elle. Lassée de voir que rien n'a changé pour les survivants des camps d'internement en 40 ans. Lassée de répéter inlassablement la même histoire. Mais quelle histoire !
Je me pose toujours la question pour savoir pourquoi. Moi, je me suis retrouvée là à 23 ans, dans cette galère. J'étais enceinte sans le savoir. Et c'est en prison que j'ai su que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que j'ai porté toute ma grossesse jusqu'à la naissance de mon fils.
Nous nous retrouvons dans le petit salon de cette grand-mère guinéenne. Quelques tableaux, des photos en noir et blanc accrochées au mur. Ce sont les seuls souvenirs qui ont résisté à une vie passée à l'étranger, loin de la Guinée. Elle n'a qu'un regret, aujourd'hui, ne pas avoir quitté son pays plus tôt. Dans les années 70, Néné Diarioukassé travaille pour la compagnie publique Air Guinée. Elle est au contact des ministres et du chef de l'État.
J'étais une simple hôtesse de l'air qui assurait les vols présidentiels. Comme je parlais les trois langues du pays, et on m'a assigné à être l'hôtesse de l'air, l'hôtesse présidentielle en fait. Et c'est de là, je crois, que tout a commencé.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Parce que, je ne sais pas, un beau jour, c'est arrivé comme ça. J'ai été arrêtée. Je me retrouve au camp Boiro. On m'accusait d'être, étant hôtesse de l'air, d'être l'intermédiaire entre les anti-guinéens en France ou à l'étranger. Et que c'est moi qui véhiculais les nouvelles de la Guinée. Donc, on m'a traité d'espionne. Enfin, des histoires à dormir debout.
Néné a-t-elle vraiment tenté de déstabiliser le régime de Sékou Touré ? Sa principale préoccupation à l'époque, raconte-t-elle, c'est de faire du shopping. Quand elle est à Paris, elle s'amuse, profite de la vie et fréquente un Français depuis quelques mois. La raison de son arrestation est peut-être plus banale qu'il n'y paraît. Néné est une belle femme qu'un Guinéen haut placé convoite.
Bon, c'est une histoire vraiment très aberrante. Un ministre fait la cour, refuse les avances, je ne sais pas. Il y avait de la jalousie et tout, bon. Et surtout que, à l'époque, hein, c'est pas n'importe qui sortait avec un blanc ici. Il fallait être audacieux pour le faire. Tout ça, ça m'a coûté 7 ans de prison.
De 1971 à 1977, elle vit en détention avec son fils Daniel. Durant les 25 ans de pouvoir de Sékou Touré, son régime dénonce une multitude de complots. Si certains sont réels, d'autres sont totalement fabriqués. La révolution traque ses ennemis. Elle fait, au fil des années, plus de 50 000 morts et disparus d'après les organisations de défense des droits humains. À l'intérieur du pays, on instaure une culture de la délation. En Guinée, tout le monde se méfie de tout le monde. Au sein même du pouvoir et de la famille de Sékou Touré, différentes factions sont en concurrence.
Mais c'était un système totalement
Mais
absurde.
Mais c'était un système arbitraire.
Non, surtout totalement absurde.
Absurde en plus.
Parce que c'était une rivalité entre les frères.
Entre les frères, des cousins, les responsables politiques, entre eux-mêmes. Il y avait une certaine rivalité. Si toi tu cherches à me protéger, l'autre ne veut pas. et contrecarre.
On va parler d'un autre pays maintenant, la Guinée. Les militaires ont pris le pouvoir là-bas, ils ont promis de rendre la liberté au peuple et ils ont ouvert les prisons, dont le fameux camp Boiro, où sont morts tant d'opposants au régime. Et vous allez voir ce camp Boiro.
En novembre 84, la télévision française visite les geôles de Sékou Touré.
Lorsqu'on vous fait entrer à la 49, on ferme la porte, on met les cadenas. Même le chef de poste n'a pas le droit d'ouvrir. Sauf, bien sûr, quand vous êtes mort. Pas de nourriture, pas d'eau. Même l'air que vous respirez, si on avait les moyens, on l'aurait supprimé pour que vous mouriez beaucoup plus sûrement encore. Là se trouvait la gégène qu'on tournait, ici. Ici, on le branchait au sein, aux oreilles et finalement au sexe. Même les femmes, même aux femmes, on le branchait au sexe.
À Boiro, Néné subit des mauvais traitements, la torture. Alors jusqu'à aujourd'hui, elle appelle Daniel son miracle.
Étant en prison sans savoir que j'étais enceinte, dans des conditions difficiles, j'ai fait une semaine de guette. Ça veut dire sans manger, sans boire, enfermée dans une cellule seule, couchée à même le sol. Si je dis c'est un miracle, jusqu'à 7 mois, j'ai vécu comme ça en prison, 7 mois, 8 mois. On était une dizaine de femmes. On s'est toutes retrouvées sans voir nos règles. Donc on a pensé que c'était le stress, le choc et tout. On a demandé à faire venir un médecin. Ils nous ont fait venir un médecin qui est venu, qui nous a auscultés. Et c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte que j'étais vraiment enceinte. Moi, dans tout ce processus, comme peut-être j'avais maigri, je n'avais pas de ventre, je n'ai pas senti ma grossesse, rien du tout. Pas de nausée, pas de... Non, je ne sais pas, aucune sensation. C'est seulement après l'auscultation qu'on m'a dit que j'étais enceinte et que j'avais les 7 mois et demi de grossesse. Je me suis posé la question, tout le monde s'est posé la question, mais comment ça se fait-il? Il est tombé du ciel ou quoi? On a commencé à dire que peut-être c'est le capitaine qui venait tous les soirs me voir, ou c'est les militaires, ou c'est ceci, cela et tout. C'est comme ça que j'ai passé ma grossesse dans le doute. Moi-même, j'avais des doutes, je me posais des multiples questions sans savoir. Parce que quand tu es dans ces telles conditions, tu te poses la question et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. S'il n'était pas né blanc, peut-être on aurait dit que j'ai chopé la grossesse en prison. Quand il est né maintenant, métisse, qu'on a compris que non, que j'étais arrivée avec ma grossesse.
Crâne rasé et peau caramel, Daniel aime faire des blagues. Mais derrière ses lunettes aux verres épais, son regard est triste. Il est le fils de Philippe de Sainte-Marie, un Français qui fut le directeur régional d'un grand groupe pétrolier. Après son arrestation, Néné n'a plus jamais revu l'homme qu'elle aimait.
Il a dit, bon, comme c'est comme ça, et on a commencé à arrêter les gens, lui, il a demandé d'aller à Abidjan, pensant que peut-être l'arrestation, c'est juste pour 1 mois, 2 mois, et que peut-être en étant à Abidjan, à ma sortie, peut-être, ça serait facile pour moi de le rejoindre. Mais malheureusement, ça a duré 7 ans, et d'ici là, il était mort entre-temps. Il a eu un accident à Abidjan.
Le camp Boiro a privé Daniel de son père. Il lui a volé aussi son enfance.
La première fois qu'on a voulu sortir d'Annie, on l'a mis, il n'avait jamais vu le soleil. Il est sorti dehors, le soleil l'a tapé, il a crié. Il a voulu fuir pour entrer dans la cellule, on l'a repoussé au dehors. On a dit non, reste dehors, tu en as besoin, reste. Il pleurait. Donc il est sorti, il est resté au soleil. Mon fils, il a failli mourir. Il a eu un coup de soleil terrible. Il est devenu rouge comme son polo là. On a imbibé les serviettes. On l'a enroulé dedans. Après, il a commencé à appeler. Il a grandi avec des femmes âgées, avec nous, des hommes âgés, des prisonniers. Ils se sont dévoués pour lui et tout, parce que le matin, on le sortait comme s'il allait à l'école. On lui donnait une ardoise, une craie, on disait d'aller dans la cellule des hommes. Donc pour lui, il allait à l'école. Mais avec les hommes, avec les grands, les prisonniers. Pas avec des enfants. Il a une enfance particulière. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, ça a très, très, très joué sur lui. Je suis la seule à le canaliser. Il s'est marié, il a deux enfants. Mais ça a joué sur lui, il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre.
Daniel est un personnage aux multiples facettes. Il a des comportements autodestructeurs d'adultes, mais sous des airs enfantins.
Aujourd'hui, je deviens, comme dit ma mère souvent, parce que maintenant je porte des jeans déchirés et tout, elle dit « Oui, toi, tu as 50 et quelques ans et tu veux redevenir... » J'ai dit « Oui, j'ai envie. »
Tu veux devenir un enfant ?
Voilà, quelque part, parce que... Je sais pas, je veux devenir hip-hop, mais c'est pas de manière banale, quoi. C'est pas de manière stupide. Parce que je suis marié, ça fait 15 ans et tout, et puis là, je veux refaire ma vie encore. Mais je sais ce que ma mère a souffert. En fait, moi, je me présente toujours comme une victime collatérale. Je suis un miracle. J'aurais pu mourir, je sais pas, moi. J'aurais pu ne jamais exister. Elle a souffert plus que moi parce qu'on a brisé sa vie. Moi, ma vie n'est pas brisée. Ma vie est traumatisée, c'est différent. Elle, sa vie a été brisée. Ce à quoi on aspire, c'est la réparation.
Tiens.
C'est une réhabilitation. Combien de personnes ici ont été maltraitées, piétinées, détruites, qui ont donné leur vie pour ce pays. Et les jeunes générations, eux, ils ne comprennent rien. Ils sont là. Ils vivent dans un néo-panafricanisme stupide. Mais on a falsifié l'histoire. Et on continue à alimenter cette falsification. Sékou Touré fait partie de notre histoire, c'est incontestable. Mais on peut. Mais ce qu'il a fait, il a fait du mal.
Un an après la chute du régime de Sékou Touré, en 1985, une équipe de journalistes français se rend à Conakry.
De l'ancien régime, seuls une cinquantaine de dignitaires sont en prison en attendant leur jugement. Là aussi, le nouveau gouvernement veut faire table rase.
Lansana Conté, le président de la transition, accepte de répondre à une interview.
Nous n'avons pas mis les gens en prison pour un problème politique, parce que ce qu'ils ont fait, c'est passé. Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça, c'est clair.
Le colonel Lansana Conté aura bien du mal à tout faire oublier, en particulier le fameux camp Boiro.
Arrivé et j'ai vu qu'au camp Boiro il n'y avait aucun changement, il n'y avait pas de mémorial, rien du tout. J'ai dit non, c'est pas normal, il faudrait quand même qu'on installe quelque chose, qu'on dise ce qui s'est réellement passé ici. Mais ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé, rien de concret. L'enfant qui est né à Boiro, il a aujourd'hui 52 ans. Quel changement il y a eu dans sa vie? Quel changement il y a eu dans la mienne? Dans quelques mois, j'aurai 76 ans. J'ai passé toute ma jeunesse en prison. Pourquoi tout le temps répéter la même chose? Pourquoi inlassablement? Pourquoi? C'est toujours la même rengaine. Mais finalement, ça lasse, ça me fatigue. Je crois que ça va être la dernière fois cette fois-ci. Je n'interviendrai plus.
Pourquoi vous avez accepté quand même cette interview?
Pourquoi j'ai accepté cette interview?
Est-ce que c'est parce que les survivants sont de moins en moins nombreux?
Oui. Oui. Ils sont moins nombreux. Beaucoup sont morts. Moi, aujourd'hui, dans le 19 mai, je fêterai mes 76 ans. Et combien de temps me reste-t-il à vivre? Dieu seul le sait.
Une réhabilitation avant que les dernières victimes ne disparaissent, voilà ce que réclament aujourd'hui Daniel et sa mère. 40 ans après la libération des prisonniers de Sékou Touré, certains Guinéens continuent de les considérer comme des traîtres.
Mathias Reynal, on vous retrouve après avoir écouté votre grand reportage. On a bien entendu, néné, répété, pourquoi je me suis retrouvé là. Avec des témoignages aussi forts, le risque, on le sait, c'est de ne faire entendre que la douleur. C'est un écueil que vous avez su contourner. Comment est-ce que vous avez abordé ce reportage ?
C'est une histoire dramatique, hein, celle de Daniel et de Néné. Mais ces deux témoins ne sont jamais finalement larmoyants. Ils parlent tous les deux avec beaucoup de dignité, de pudeur, vous l'avez entendu. Et puis j'ai fait le choix d'un fil conducteur musical, des musiques plutôt neutres, parce que justement je ne voulais pas ajouter de la tristesse aux propos, surtout ça risquait de ne pas coller avec l'atmosphère de cette interview. Parfois, alors je ne l'ai pas mis forcément dans le reportage, mais il y a des moments plus drôles, des moments même de légèreté où on rigole avec Daniel et sa maman. Daniel et sa mère qui sont des survivants, mais aussi et avant tout des combattants. Aujourd'hui, ils réclament leur réhabilitation. Le fils, cet écorché vif, hein, pour résumer, il milite depuis quelques années au sein de l'association des victimes du camp Boireau.
Daniel et sa mère, vous les avez rencontrés dans quelles circonstances ?
Alors, c'est Daniel que j'ai croisé en premier. C'était le 25 janvier dernier. Et le 25 janvier, c'est une date importante pour la Guinée. C'est le début, en 1971, d'une vague de répression terrible. Des dizaines de personnes, beaucoup de hauts cadres du régime de Sékou Touré, sont alors exécutés. Ils sont accusés d'être des ennemis de l'intérieur après l'agression portugaise quelques mois plus tôt. Le 25 janvier dernier, l'AVCB, l'Association des victimes du camp Boireau, organisait des commémorations. Et c'est à ce moment-là que je croise Daniel. Il me raconte son histoire et je décide de ne pas la diffuser. C'est trop fort, trop intéressant pour tenir dans un reportage d'une minute 15 seulement sur les commémorations. À l'approche des 40 ans de la libération des derniers prisonniers des camps d'internement de Sékou Touré, j'ai donc décidé de le recontacter et Daniel a tout de suite accepté.
Vous nous le disiez il y a un instant, Mathias, dans votre reportage, vous avez fait le choix de mettre de la musique, une musique qui ne soit pas trop lourde et sinistre. Autre choix que vous avez fait, ce sont ces allers-retours entre le présent et le passé grâce à des extraits de reportages télévisés. Alors là encore, qu'est-ce qui a guidé votre choix ?
Il fallait raconter la grande histoire à travers cette histoire très personnelle que nous confiaient Néné et Daniel. Ces reportages permettent de prendre finalement de la hauteur. Alors malheureusement, les archives guinéennes sont presque inexistantes. Je me suis donc tourné vers ce qui était plus facile, les journaux télévisés français des années 80. Et c'est une mine d'informations. On ressent plusieurs choses, hein, en regardant ces sujets. Déjà, les enjeux sont très bien compris par les journalistes de l'époque qui voient donc les militaires de l'Ansana Conté s'emparer du pouvoir, libérer les prisonniers du camp Boireau et leur faire de nombreuses promesses. Et puis, après un an d'exercice du pouvoir, c'est la déception qui s'installe, hein, chez les victimes du régime de Sékou Touré. On entend l'Ansana Conté, le président de la transition, qui déclare, je le cite, « Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir va nous échapper, tout est dit ». 40 ans après cette phrase, une bataille mémorielle fait rage encore en Guinée parce qu'on a refusé de faire l'inventaire de la Première République. Ces fantômes continuent de hanter le pays.
Alors est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a un peu d'espoir ?
Alors il y a bien eu une tentative de réconciliation nationale. C'était sous Alpha Condé, le précédent président, mais le processus n'a pas été à son terme. Il est même en panne. Aujourd'hui, deux camps irréconciliables s'opposent. D'un côté, il y a les pro-Sékou Touré qui minimisent ou nient tout simplement les crimes de son régime. De l'autre, ceux qui font valoir les droits des victimes.
Merci Mathias Reynal. Sur RFI, la suite du grand reportage, le supplément du samedi, direction l'Europe centrale. On se retrouve dans 20 minutes pour en parler. Pour agir face au changement climatique, l'Europe se fixe un calendrier. En 2050, objectif suprême du pacte vert, la neutralité carbone. D'ici là, 2030, réduire les gaz à effet de serre de plus de la moitié. Reste que dans la réalité, on en est loin. Au rythme où elle va, l'Europe n'a aucune chance d'y parvenir. Quand on parle de décarboner l'économie, on pense particulièrement à l'industrie et singulièrement au secteur sidérurgique dont l'activité peut se révéler très polluante. C'est le cas en Slovaquie où l'activité sidérurgique représente un cinquième de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Décarboner l'industrie sidérurgique, un enjeu crucial pour la Slovaquie C'est un grand reportage de Sylvie Noël.
Nous sommes dans un taxi et nous quittons actuellement le centre-ville de Košice. Nous nous dirigeons vers l'usine US Steel. À l'annonce de notre destination, le chauffeur de taxi nous a très rapidement confié que son père y a travaillé et il nous raconte un certain nombre de ses souvenirs.
Et toutes les voitures, le matériel qui était là-bas était recouvert de cette poussière d'acier.
Košice, c'est la deuxième ville de la Slovaquie. Elle se trouve dans une cuvette entourée par le massif des Carpates. Elle est située dans la partie orientale du pays, aux confins de la Pologne, de l'Ukraine et de la Hongrie.
Košice, à la base, c'était pas si mal parce qu'il y a le vent du nord, donc il y a beaucoup de la pollution qui allait vers la Hongrie.
Très rapidement au loin, on aperçoit ces hautes cheminées blanches et rouges qui se dressent, c'est l'usine US Steel. Ça y est, nous y arrivons. Il y a une guérite à l'entrée de l'usine.
Dobrý, taxi služba, vedem hosti. 18,90 vyšlo.
Alors là, nous sommes à l'intérieur du périmètre de US Steel. Notre interlocuteur, c'est Juraj Varga. Il est le responsable du principal syndicat de l'usine. Alors, il nous a précisé hier que pour des raisons de sécurité, c'est lui qui viendrait nous chercher. En revanche, je précise que la direction de US Steel Košice, malgré nos multiples demandes, a refusé de nous rencontrer. Eh bien, nous rentrons avec Juraj Varga dans les locaux de US Steel. Nous avions pris rendez-vous avec Juraj Varga il y a quelques semaines pour parler de la décarbonation de son entreprise. Mais entre-temps, une annonce fracassante est intervenue. Le rachat de US Steel, le fleuron de la sidérurgie américaine basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Rachat par Nippon Steel, le japonais. J'ai tout d'abord donc demandé à Juraj Varga comment était accueillie la nouvelle de ce futur rachat par les employés de Košice.
C'est une bonne nouvelle car notre usine souffre de sous-investissement. Depuis plusieurs années, il n'y a pas eu d'investissement pour moderniser nos processus de production. Pour parler clairement, nous avons une usine du siècle dernier.
Dans ces conditions, où en est la décarbonation ?
Rien n'a été réalisé. Pourtant, il y a eu une annonce et une médiatisation concernant la décarbonation. Les employés sont déçus. Avec l'arrivée du nouveau propriétaire, on espère un développement positif pour l'usine.
Je comprends donc que malgré les annonces, la décarbonation à US Steel Košice n'est pas enclenchée.
Tout est à l'état de plan. Cela fait 3 ans que l'administration travaille sur le processus de décarbonation. D'un point de vue administratif et technique, on peut dire que l'usine est prête. Mais l'élément déclencheur, c'est l'argent. Nous savons que 600 millions d'euros de fonds européens sont prêts à être investis, mais il faut que l'employeur investisse la même somme. Il nous fallait au total 1,2 milliard d'euros. Mais avec le tourbillon inflationniste, la crise énergétique, ce sera plus, peut-être 1,4 milliard. Nippon Steel devra dire quand et si elle est prête à investir dans ce projet.
Kedy a či je ochotný vložiť do tejto investície peniaze.
US Steel. From our mines to our mills, we're developing steel that is stronger, lighter, and greener. US Steel. A stronger America is made here.
When you open their website, it looks very green.
Quand vous allez sur son site web, cette entreprise se présente comme très verte, très engagée dans le développement durable. Ce genre d'entreprise aime avoir l'air très écologique, mais en fin de compte, ce n'est très souvent que de la com, de l'éco-blanchiment.
I'm Zuzana Kupcová and I'm coordinator at the Klimatia Potrebuje organization.
Klimata Potrebuje, c'est-à-dire le climat a besoin de toi. C'est une toute jeune organisation écologique qui a vu le jour en 2021. Zuzana Kupcová en est la coordinatrice. Elle nous a donné rendez-vous dans un café branché de Košice. C'est une ancienne fabrique de tabac rénovée. Zuzana Kupsova n'est pas convaincue de la volonté de US Steel de décarboner sa filiale de Košice.
C'est juste une histoire de petits pas. Nous savons qu'il s'agit d'un investissement financier énorme, mais US Steel a le taux d'émission de CO2 le plus élevé de Slovaquie. C'est donc un énorme problème. Elle est proche de la ville, elle a un impact environnemental considérable. Bien sûr, US Steel communique sur les actions qu'elle mène, mais pour nous, en tant que militants écologiques, ce n'est pas suffisant. Ce que nous voulons, c'est une véritable décarbonation.
C'est sous le régime communiste dans les années 60 qu'est sorti de terre le complexe sidérurgique déclenchant un boom démographique puisque Košice comptait 60 000 habitants en 1960 et 240 000 aujourd'hui. Et cela fait plus de 20 ans que les autorités locales sont en contact avec US Steel, qui a d'abord été en joint venture avec le conglomérat slovaque à partir de 1998, puis seul aux commandes de l'usine 2 ans plus tard. Nous venons de pénétrer dans un très bel immeuble historique du XVIIIe siècle, un vestige du passé. Nous avons rendez-vous avec le président de la région, Radislav Trenka. L'escalier est majestueux, nos pas résonnent en raison de la hauteur sur plafond. Radislav Trenka a 35 ans quand il a été élu pour la première fois, c'était en 2017. Il est devenu le plus jeune président de région de l'histoire de la Slovaquie. En quelques chiffres, on comprend rapidement l'importance de l'usine US Steel pour la région de Košice.
US Steel est l'usine la plus importante dans notre région de Košice. En fait, il fut un temps où toute l'économie de la Slovaquie orientale reposait sur cette entreprise. Au fil du temps, nous avons développé un autre pilier économique, le secteur des technologies de l'information, mais l'industrie sidérurgique reste essentielle pour l'économie locale. Actuellement, US Steel emploie quelque 8000 personnes. À cela s'ajoutent quelque 20 000 personnes dans les entreprises de sous-traitance. C'est la plus grande usine de la Slovaquie orientale et donc un employeur important.
Et quel est son chiffre d'affaires ?
L'usine réalise un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Si l'on considère que la Slovaquie a un PIB d'environ 130 milliards d'euros, cela représente presque 2% du PIB slovaque. Vous comprenez son importance à l'échelle régionale.
C'est donc le plus gros employeur de la région, une manne de richesse, mais aussi l'industrie la plus polluante, n'est-ce pas ?
En Slovaquie, les entreprises de la région de Košice produisent jusqu'à 30% des émissions de CO2 créées dans toute la Slovaquie. Nous sommes donc l'une des régions les plus polluées de Slovaquie et l'un des responsables de cette réalité peu flatteuse, c'est US Steel. C'est donc le revers de la médaille de notre dynamisme économique et, en fait, divers problèmes de santé en découlent. Statistiquement, dans notre région, l'incidence du cancer est beaucoup plus élevée en raison de la pollution de l'air.
Bratislava est à 400 km de Košice. Il faut à peu près 5 heures pour atteindre la capitale en train. Nous avons rendez-vous dans la capitale, au ministère de l'écologie, pour faire le point sur la décarbonation de l'industrie sidérurgique.
Je m'appelle Kristina Moisesova et je travaille à l'Institut pour la politique environnementale, qui est l'un des départements du ministère slovaque de l'environnement, en charge tout particulièrement de fournir tous les chiffres et la modélisation et les scénarios de la décarbonation.
Vous pouvez nous expliquer pourquoi la décarbonation de la sidérurgie est capitale pour la Slovaquie?
Comme vous le savez déjà, l'industrie sidérurgique joue un rôle très important dans le contexte slovaque. Près de la moitié de notre économie est plus ou moins liée à ce type d'industrie. C'est ce qui se reflète dans ce graphique sur les émissions de CO2. Vous pouvez donc voir que le secteur sidérurgique est responsable de près de la moitié des émissions de CO2 en Slovaquie. Sur cette moitié, cette partie-là, plus d'un cinquième des émissions slovaques provient de notre production d'acier, autour principalement de l'usine de Košice, qui est le troisième ou quatrième plus important employeur sur le marché slovaque.
US Steel est donc responsable d'environ 20% des émissions de CO2 produites dans toute la Slovaquie, ce qui est incroyable. Quels seraient donc les effets d'une décarbonation de cette industrie?
Si nous mettons en œuvre la décarbonation de l'usine US Steel, nos émissions de CO2 au niveau national vont baisser de 14%. La Slovaquie sera en mesure d'atteindre ses objectifs 2030 fixés par l'Union européenne de réduction de 55% des émissions par rapport à 1990. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un sujet d'une très grande importance pour nous. Et notre gouvernement tente actuellement de comprendre pourquoi, bien qu'il ait alloué des fonds considérables à cette usine pour qu'elle lance sa décarbonation, eh bien aucun accord officiel pour le début des travaux n'a été signé.
Mais alors, comment finance-t-on une décarbonation chiffrée à plus d'un milliard d'euros?
US Steel s'est vu octroyer 600 millions d'euros par l'Union européenne pour remplacer deux des trois hauts fourneaux par des fours à arc électrique. 300 du fonds de plan de relance et de résilience et 300 du fonds de modernisation. Notre gros problème ici, c'est que si le fonds de modernisation court jusqu'en 2030, en revanche, le plan de relance et de résilience doit être réalisé d'ici la première moitié de 2026. Si les projets ne sont pas réalisés dans ce délai, il n'y aura pas de financement et la Slovaquie ne pourra pas remplir ses engagements pour 2030.
US Steel Košice is the largest integrated steel producer in Central Europe.
Il suffit donc que US Steel mène à terme la décarbonation de son usine de Košice pour que la Slovaquie remplisse ses objectifs de baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre imposées par l'Union européenne à tous les États membres à l'horizon 2030. On comprend alors pleinement l'enjeu que représente cette décarbonation pour le gouvernement slovaque. En 2019, le ministre des Finances du moment, Igor Matovic, avait fait le déplacement à Pittsburgh aux États-Unis à l'invitation de US Steel. Il avait alors tenu une conférence de presse où il avait présenté la décarbonation comme le seul moyen d'assurer un avenir à la filiale de Košice. En 2021, le même Igor Matovic annonçait l'engagement de US Steel à remplacer deux hauts fourneaux par des fours à arc électrique, engagement qui ne s'est donc jamais concrétisé. Le 18 décembre dernier, la nouvelle fait la une des médias américains, slovaques et japonais. Nippon Steel, le quatrième groupe sidérurgique mondial, fait une offre pour racheter US Steel. Sidération aux États-Unis, qui voit son fleuron sidérurgique passer sous pavillon étranger. Soulagement en Slovaquie, car la filiale de Košice fait bien partie de l'offre de rachat. Désormais, c'est donc vers Tokyo que le regard du gouvernement slovaque se tourne. Il va falloir reprendre avec le potentiel futur propriétaire les démarches, les négociations en vue d'une décarbonation. Nous avons voulu savoir ce que pensait le patronat slovaque de la décarbonation de l'industrie slovaque. Nous poussons la porte du syndicat patronal RUS. Son siège est situé en dehors du centre-ville de Bratislava, dans un immeuble neuf, entouré de centres commerciaux et d'autoroutes. RUS représente 1500 entreprises, issues de tous les secteurs de l'économie, de l'industrie lourde et métallurgique, aux services, banques et compagnies d'assurance.
Bon, bon, bon. Martin Hochstack. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Welcome.
Martin Hochstack est le secrétaire général de Roos. Il nous a prévenu lors de la prise de rendez-vous qu'il ne parlerait pas de US Steel, qui est membre de son syndicat. Nous lui demandons quel regard porte le patronat slovaque sur la décarbonation de l'industrie.
Bien sûr, ce sera un grand changement technologique pour le secteur industriel, mais c'est coûteux, très coûteux, et rien n'est gratuit dans ce monde. C'est la raison de notre, je ne dirais pas hésitation, mais inquiétude, car c'est la question de notre compétitivité qui se pose, à savoir si nous serons encore compétitifs après avoir investi autant de moyens financiers dans la décarbonation. Je ne parle pas de la compétitivité au sein de l'Union européenne, mais de la compétitivité avec les entreprises qui, dans le monde, ne sont pas soumises à des obligations aussi strictes en matière de décarbonation. Bien sûr, la transition verte est un phénomène mondial, mais je pense que l'Union européenne a les règles les plus strictes, ce qui peut provoquer une fuite de capitaux, une délocalisation des entreprises. Or, nous ne pouvons pas devenir un musée industriel. L'Europe ne peut pas se passer d'industrie.
Donc, vous êtes fréquemment à Bruxelles. C'est une préoccupation qui est entendue?
C'est difficile à dire, mais ce que je vois, c'est que vous pouvez déjà constater un léger changement de rhétorique chez certains élus européens, voire des membres de la Commission. Par ailleurs, nous nous attendons, a priori, à ce que le Parlement européen ne soit pas aussi vert qu'il l'est aujourd'hui à l'issue des élections de juin. Nous ne savons pas quels seront les résultats du scrutin de juin prochain, mais peut-être, je dis bien peut-être, que l'Union européenne changera d'avis sur le calendrier de son projet très ambitieux. Peut-être que non, peut-être que oui, mais au moins, nous constatons un léger changement. Nous verrons bien.
Be the best steelmaker.
Nippon Steel a donc fait connaître en décembre 2023 son offre de rachat à hauteur de 15 milliards de dollars de US Steel ainsi que de sa filiale slovaque. Qu'en pense Radislav Trenka?
En tant que président de région, je dirais donc que le rachat de l'ensemble de la multinationale par les Japonais est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Nous travaillons au lancement d'une vallée de l'hydrogène, mais US Steel ne s'est jamais impliqué dans ce processus, ce que je regrette personnellement. C'est un sujet qu'il faudra aborder avec Nippon Steel. Les Japonais sont d'ailleurs très avancés dans les technologies de l'hydrogène. Donc, je pense que nous trouverons un terrain d'entente et que nous ferons progressivement évoluer cette usine vers une aciérie totalement verte et propre.
Joe Biden says US Steel must remain American-owned.
Si cette fusion en négociation heurte le patriotisme économique américain, d'autant que le pays est en pleine campagne électorale, à Košice, la page US Steel est comme déjà tournée.
Avec une décarbonation réussie à Košice, nous relèverions non seulement un défi, mais nous servirions aussi d'exemple. C'est ce que nous espérons tous.
Décarboner l'industrie sidérurgique, un enjeu crucial pour la Slovaquie. Bonjour Sylvie Noël.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef à RFI, vous rentrez donc de Slovaquie. Pourquoi avoir choisi ce sujet sur la décarbonation?
Alors, c'est vrai que cette question revient souvent quand j'évoque le sujet de mon reportage. À l'heure de la décarbonation de l'industrie européenne, j'avais été intriguée en 2019 par le voyage du ministre des Finances slovaque, Igor Matovič, aux États-Unis. Il s'était rendu à Pittsburgh pour expliquer aux propriétaires américains que l'usine de Košice, son avenir, eh bien, elle passait par la décarbonation. Dans la foulée, j'avais aussi noté les démarches répétées de la Slovaquie auprès de l'Union européenne pour obtenir un financement.
Et de fait, ils ont obtenu 600 millions.
Oui, mais le temps presse, car 300 millions ne sont disponibles que jusqu'en 2026. Et puis, Bratislava a aussi beaucoup insisté auprès de Bruxelles sur le défi que représente pour le pays, mais aussi pour l'Europe en tant qu'exemple, la décarbonation d'une usine sidérurgique comme celle de Košice. Enfin, cette équation... US Steel Košice, le plus gros pollueur, mais aussi le plus gros employeur de la région. S'il se lance bien dans ce processus de décarbonation, eh bien la Slovaquie remplit les critères européens pour 2030 en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Tous les enjeux sont ici résumés.
Alors, il y a tout de même une chose qui peut étonner dans votre reportage, Sylvie, c'est que l'annonce du rachat de US Steel par Nippon Steel soit si bien perçue. Le président de la région, il vous dit... il ne pouvait pas y avoir de meilleure solution.
Et oui, ça m'a beaucoup étonné aussi. Alors, le japonais semble clairement perçu comme plus engagé en matière de décarbonation. Et puis, concernant US Steel, j'ai très vite perçu la déception face au manque d'investissement dans la filiale de Košice au cours des dernières années. Il faut rajouter qu'au cours de la dernière décennie, il y a parfois eu des rumeurs selon lesquelles US Steel voulait se débarrasser de sa filiale. Enfin, concernant la décarbonation, qui n'est toujours pas enclenchée, il y a clairement incompréhension alors que le temps passe.
À propos de décarbonation, le point de vue du patronat qu'on entend dans votre reportage est sinon iconoclaste, en tout cas intéressant.
Et oui, même s'il reconnaît l'existence de fonds européens pour favoriser cette transition verte, eh bien Martin Ostak, le secrétaire général du syndicat des employeurs russes, me parle du coût du processus de décarbonation, des risques de fermeture d'entreprise ou de délocalisation, et puis de la crainte de ne plus être compétitif vis-à-vis de la concurrence internationale.
Des concurrents qui ne sont, on le sait, pas soumis aux mêmes nécessités en matière de décarbonation.
Ça, Martin Ostak me l'a souvent répété. Il m'assure que son syndicat est persuadé de la nécessité de la transition verte, mais le calendrier et les objectifs fixés par Bruxelles sont jugés à Bratislava auprès du patronat trop ambitieux. Il m'a tenu ses propos. Nous ne devons pas défendre notre beauté ou notre nature au point d'en mourir.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Sylvie Noël. Le supplément du samedi, c'est fini. Merci à Eva Piedel et Diego Tenorio. On se retrouve demain, 9h10 temps universel, 11h10 heure de Paris, avec Paulina Zidi. Nous irons en Ouganda, pays à contre-courant des vagues sécuritaires et des frontières qui se ferment. L'Ouganda, terre d'accueil des réfugiés, envers et contre tout. Dimanche également, nous serons à bord de l'Aquitaine, une frégate française en mer Baltique. L'OTAN, toujours plus présente face à la Russie. Une frégate, c'est un navire un peu particulier. Demain, vie à bord et visite guidée avec Marielle Vituro. Dans un instant, le journal.
Sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci, merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient, sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir.